Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va aller plonger, on va dire, dans le parcours de la vie, celui qui nous emmène des fois par surprise à travers un cheminement qui nous fait découvrir qui nous sommes véritablement. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Fatem Zahra Touzani, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va aller, la Fatem Zahra?
Alhamdoulilah, très très bien. Allahumma lak alhamd.
Alhamdoulilah. Alors, les gens qui vont nous écouter maintenant, est-ce qu'ils vont plus reconnaître Fatem Zahra ou bien Tatami?
Écoute, je crains que ce soit Tatami. Hein.
C'est ton.
Tatami beaucoup plus que Fatem Zahra. Oui.
C'est ton nickname.
C'est mon nickname, absolument.
Tu as eu ton bac en 2005.
Ouais.
Ok. Et tu dis que ton bac est synonyme de ton premier échec.
Tout à fait.
Qui fait-je?
Écoute, j'ai tout simplement raté mon concours d'accès à la faculté de médecine parce que mon rêve à l'époque était de faire médecine. Et ce qui est marrant, c'est que je disais pendant toute l'année du bac, je répétais, je ferai médecine et rien d'autre et surtout pas une école de management. J'ai échoué comme un chef, j'ai raté le concours de médecine et j'ai atterri dans une école de management.
La preuve
qu'il ne faut jamais dire jamais. Et peut-être qu'il ne faut pas trop protéger nos enfants de l'échec parce que la première rencontre avec l'échec est rude, est très rude. Donc peut-être qu'échouer, c'est bien aussi que ça fait partie de l'apprentissage.
Et tu ne voulais pas le repasser un an après?
Si, il y avait eu cette option. Il y avait l'option de faire des études de médecine ailleurs, quitter le Maroc, tout ça. Et puis, un concours de circonstances a fait que je suis restée au Maroc. J'ai fait une école de commerce. J'ai aimé faire ça. Et je me suis retrouvée dans ce que je pensais ne pas aimer. C'est marrant, hein?
C'est marrant.
Mais généralement, on n'aime pas ce que l'on ne connaît pas. On s'enfuit de ce que l'on ne connaît pas. Donc moi, j'ai côté management, je ne savais pas vraiment ce que c'était flou, et donc je disais que je n'aimais pas. Mais il a suffi d'ouvrir la porte et d'apprendre à connaître pour apprendre à apprécier. Et je me suis retrouvée, voilà.
Mais ouais, tu as quand même joué le jeu, hein, pour goûter,
absolument,
apprécier. Il fallait jouer le jeu.
Je crois que j'ai eu de la chance parce que, de un, j'ai joué le jeu et de deux, j'ai eu des parents intelligents qui ne m'ont à aucun moment forcé la main, qui ont dit « Ok, on tente et si ça ne te plaît pas, bien évidemment, tu retentes ton concours de métier l'année prochaine. » Et je pense que de ne pas être rentrée dans ce rapport de force m'a permis justement d'être à l'écoute, de m'ouvrir à cette opportunité et de vivre l'expérience pleinement.
Et un absolument diplôme de management en poche.
Absolument.
Quelques temps plus tard.
Ouais. Une première expérience professionnelle qui m'a donné envie de m'enfuir dans une agence de communication et qui m'a tout de suite fait comprendre que non, ce n'est pas ce que je voulais.
C'est l'expérience qui t'a fait comprendre ça? C'était quoi la différence entre les études et la pratique?
C'est au fait, je suis une amoureuse de la vie et j'essaye autant que faire se peut de me sentir en vie à tout moment. C'est-à-dire que même quand je travaille, il faut que je sente que je vis, que je vibre, que je suis bien, que je suis alignée. Et donc, la ligne rouge, ça a toujours été de sentir que je passais à côté de la vie, quoi. Dans tout ce qui m'a accompagnée pendant ces 15 dernières années, la ligne rouge, c'était oups, attention, tu passes à côté de la vie. Et donc, le fait que je travaillais à Casablanca, que je faisais la navette, que ce que je faisais n'avait pas vraiment de sens pour moi, c'était la ligne rouge. Et c'est ce qui a provoqué mon premier grand départ.
C'est incroyable. Afti, Fatem Zahra, je ne sais pas, mais des fois, moi, je me dis, je crois que pendant des années, j'ai vécu, j'ai traversé la vie sans vraiment me connaître. Il m'a fallu du temps en tant que femme. Peut-être aussi c'est ma génération, c'était différent en fait, je pense. On ne cherchait pas à savoir est-ce que ça me convient ou ça me... Est-ce que ça me convient ou ça ne me convient pas n'était pas une question qui se posait en fait. Dans le sens où tu as fini tes études, tu bosses, tu as un salaire... c'est tout. Qu'est-ce que ça me fait? Tu peux pas...
Hamdallah.
Exactement. Voilà, toi, très vite, tu t'es posé cette question et tu as dit en fait pendant tout ce temps-là, ma ligne rouge, c'était je veux vivre ma vie. Ça a vraiment résonné avec moi en me disant, on a été nombreux et nombreuses à ne pas se poser cette question, en fait.
Oui, oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard hein, de,
oui,
de poser
absolument,
la question
absolument.
Et de prendre les décisions qu'il faut. Hein,
mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais. justement, dans ma génération à moi, on voit beaucoup de changements de cap de vie à la quarantaine,
oui.
en fait.
Oui,
c'est...
je trouve ça formidable.
Oui, mais écoute...
Formidable. Et au fait, et je pense aussi que... C'est OK de changer de cap de vie 2, 3, 4, 5, 6 fois dans sa vie. Hein. C'est
ouais,
OK.
Ouais. Oui.
parce que, tu sais, parce qu'on a tendance à penser que l'avoir changé une fois, ça fait c'est bon. Mais on évolue et nos convictions aussi, nos valeurs aussi et nos sources de plaisir aussi. Et donc, si j'ai changé la première fois à 30 ans et que je souhaite rechanger à 40 ans, c'est OK. et que je souhaite rechanger à 50 ans, c'est OK. C'est pour ça que je pense au fait vraiment que c'est un cheminement. Et qu'il faut être à l'écoute de son corps et de son esprit, de ce que nous dit. En fait, moi, mon corps me parle. Donc, ce que me dit le corps, je l'écoute. Je me dis, OK, d'accord, merci beaucoup. Et donc, OK, ça continue. En fait, c'est jamais fini. Aujourd'hui, comme on le disait en début d'émission, j'ai réalisé mon rêve, celui d'ouvrir une crèche et de vivre ma vie entourée de jeunes âmes innocentes, de jeunes enfants heureux et de belles énergies. Oui, c'est ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que je vais faire toute ma vie? Je ne sais pas.
Ouais,
mais
ouais.
En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être en alignement presque parfait, alhamdoulilah.
Ouais.
Donc voilà, donc c'est un cheminement et c'est pour ça que je pense qu'au fait, on n'en finit jamais. On finit jamais de travailler sur soi et de se connaître et de se découvrir.
Mais il faut laisser voilà. tomber beaucoup de choses, en fait, pour se permettre un changement. Et se permettre des changements. Et d'ailleurs, je voulais te remercier parce que, en fait, oui, ça a été comme un aha moment quand tu as dit, ben, en fait, on n'est pas obligé de changer juste une fois, on peut changer plusieurs fois. Et c'est vrai parce qu'on a tendance à penser que quand on fait un grand changement dans sa vie, ça y est. Ça fait, tu as franchi un pas, tu ne vas pas... comme on dit constamment. Voilà. Et donc, oui, tu as parfaitement raison, mais... Ça demande beaucoup de choses. Ça t'a pris quoi d'arriver finalement à ça aujourd'hui? Parce que toi, justement, tu as eu beaucoup de changements. Donc en 2005, tu as eu ton bac, tu as fait tes études.
Oui.
En 2011, tu es partie vivre une expérience avec une ONG, c'est bien ça?
Oui, exact. Tout à fait.
Alors, du management com à l'ONG, Kider Tileha.
Oui. Guidée par le sens, en fait, guidée par quel sens je veux donner à ma vie. C'était une ONG était en île Maurice, donc à l'autre coin du monde, parce que j'avais besoin aussi. Je pense que des fois, il faut tout quitter pour mieux se retrouver. Donc, j'avais besoin de quitter ma zone de confort, j'avais besoin de quitter mes repères pour pouvoir justement aller au fond de moi-même et découvrir ce qui me plaisait vraiment. Donc, j'ai eu cette opportunité à travers une autre ONG. D'ailleurs, d'où l'importance de l'engagement associatif, on pourrait en parler si tu le souhaites. Et ça m'a permis de découvrir au fait que dès que ce que je faisais avait un impact positif sur une seule personne, eh ben, j'étais contente.
C'est ça.
Et le fait d'avoir servi de jeune fille du Collège Lorette de Maillebourg en île Maurice, d'avoir commencé à enseigner déjà à l'époque et de comprendre au fait que bah oui, ce que j'aimais, c'était... la transmission, et c'était être au service de l'autre, quel que soit cet autre. Donc ça m'a plu, et puis ma formation et le management ne m'a pas desservie, parce qu'au contraire, j'ai mis les compétences que j'avais développées lors de cette formation au service d'une communauté qui était dans le besoin. On a toujours besoin, au fait, les études de management, ça permet de développer surtout un état d'esprit, une certaine structure, une certaine manière de travailler, une organisation, etc., que tu peux mettre au service d'entreprise, comme tu peux mettre au service d'ONG, etc. Et donc, c'était juste une question de petit shift. En fait, c'est juste que je n'allais pas travailler dans des grandes industries ou là, parce que ça ne me parlait pas. Il fallait que je travaille pour une entité dont le centre d'intérêt était en alignement avec ce qui me donnait à moi le sentiment d'exister et de servir. Voilà.
Tu es resté avec eux combien de temps?
Pratiquement une année. Et puis, il fallait rentrer au Maroc.
Il fallait. Pourquoi puis, il fallait?
Ben, pour des raisons familiales.
Ouais.
Je suis rentrée. Je suis rentrée au Maroc. Ouais. En fait, je pense que j'ai toujours eu l'appel... l'appel du bled, comme ouais. on dit. J'ai toujours voulu rentrer au Maroc parce que c'est ici que je me sens vraiment chez moi. Ici, je suis chez moi et puis j'ai envie de grandir avec les miens, de voir les miens grandir, de faire ma vie ici parce que c'est quand même un très beau pays, le nôtre, avec ses challenges, certes. Mais c'est quand même un très beau pays. Et puis si l'on quitte tout, ce qui resterait.
Absolument.
Donc je suis très contente d'être de retour et je suis très contente de servir à ma petite échelle mon pays.
Alors, quand tu es rentrée, donc avant il y a eu l'expérience en entreprise, ensuite il y a eu l'expérience ouais. avec l'ONG, c'était avec Amnesty ouais. International, c'est ça ?
Absolument, oui, tout à fait.
Ok. Donc, est-ce que pour toi, en rentrant, tu savais ce que tu allais faire ?
Écoute, je ne pourrais jamais avoir cette audace de dire j'ai toujours su à 1000% que je savais, mais on peut dire que j'ai toujours su ce que je ne savais pas. C'est déjà un bon début. Donc, je savais que je n'allais pas travailler en entreprise. Ça, c'était
ça,
un
ça tu le savais.
Ça, c'était une certitude. Ouais. C'était clair et net dans mon esprit que je ne travaillerais plus jamais en entreprise au sein d'un département marketing ou à faire des calculs mathématiques, etc. Non, je savais que je n'allais pas faire ça. Mais je savais que j'allais travailler pour un impact, pour avoir un impact positif quelconque. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour un cabinet de conseil spécialisé dans le développement humain. À commencer ainsi. Tu sais, j'ai appris à assumer les différentes casquettes que j'ai eu à porter durant ma carrière parce que c'était un peu une quête, un cheminement et j'en suis fière. J'ai porté la casquette de consultante, ou ce qui m'a permis de faire le tour du Maroc tu sais, ça me fait rire d'en parler parce que j'ai l'impression de parler d'une autre vie.
Vie, oui.
qui m'a permis, parce que là, on parle de 2011, ou là, de 2012. On parle de 2011. Et donc, il m'a permis de faire un peu le tour du Maroc et de sortir de Rabat, Casa, Marrakech, de ce que l'on connaît du Maroc. Mmh. J'avais fait un petit peu les contrées qu'on ne connaissait pas je ne l'ai pas fait moi-même, mais pour contribuer à certains projets qui avaient lieu dans les différentes régions du Maroc. Et ça m'avait permis d'ouvrir les yeux sur les réalités et de comprendre que les réalités sont multiples. Que la réalité du Maroc, tu sais, on dit souvent le Maroc est multiple, et je l'ai vécu, oui. Je l'ai expérimenté. Et it's very humbling, si tu veux. Quand on le vit, au fait, ça nous permet de prendre conscience de la chance que nous avons, de nos richesses. Et puis, ça nous permet aussi de comprendre qu'on n'est pas le centre du monde.
On n'est pas le centre du monde en tant que personne, tu veux dire.
Loin de là qu'on est. Et puis, ça permet aussi de relativiser en termes de problèmes, en termes de soucis. Ouais. Ça permet de se dire, tu sais quoi, alhamdoulilah, pour ce que tu as, qu'est-ce que tu peux faire pour quelqu'un d'autre ? Parce que quelqu'un a besoin de ce que toi, tu as. Donc, à toi de voir ce que tu peux faire.
Pardon de t'interrompre, Tatami, parce que j'ai l'impression que cette expérience, elle vient un peu équilibrer l'expérience capitaliste de la vie. M'explique. Voilà, quand on a son bac, on fait ses études, etc., c'est forcément pour gagner sa vie, prendre son envol, et rentrer et devenir à son tour consommateur et ainsi de suite. Et toi, en fait, avec cette expérience, tu es venue lever le frein à ce cheminement rapide et logique, entre guillemets.
C'est exactement. Merci de le dire comme ça parce que ça résonne en moi. Vraiment, c'est vraiment ça, au fait. C'est un peu une lutte anticapitaliste. Je crois que la vie, c'est pas juste une question de travailler, gagner sa vie et aller consommer. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. Parce que sinon, ce serait simple, au fait. La vie et le bonheur, le bien-être, le bonheur. Si ça n'avait été que ça, je pense que tout le monde serait content. Tout le monde ne l'est pas, et c'est parce que je pense que nous avons dans la vie besoin de beaucoup plus que ça. Je pense qu'on a besoin de plus que de gagner sa vie. On a besoin de sens. Moi, j'ai toujours été en quête de sens. On a besoin de se sentir utile. Tu sais, c'est marrant parce qu'en discipline positive, c'est un peu ma en quoi je crois et ce avec quoi on travaille en crèche. En discipline positive, on dit que l'être humain a deux besoins principaux. L'oulani, c'est le sentiment d'utilité. Mmh. On a besoin de se sentir utile. Dans quoi que l'on fasse, on a besoin de se sentir utile. Et je pense que j'ai toujours été en quête de ce sens, justement. J'ai besoin de me sentir utile. Et le deuxième, l'être humain a besoin d'avoir le sentiment d'appartenance. On a besoin d'appartenir à une communauté. Et quelle que soit cette communauté, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être une ONG, ça peut être le travail, mais on a besoin d'appartenir à une communauté. Et c'est quand on n'appartient pas à une communauté qu'on va vers des communautés un peu dangereuses, qu'on va aller vers, je sais pas, la consommation de drogue, je sais pas, mais c'est pour appartenir, toujours. C'est toujours motivé. L'acte est toujours motivé par cette envie d'appartenir à une communauté. Et tu vois, donc, si tu veux, je me suis toujours posé ces deux questions-là sans le savoir, au fait, sans savoir que c'était des besoins importants pour l'être humain. Mais j'ai toujours recherché le sentiment d'utilité et j'ai toujours ressenti le sentiment d'appartenance à une communauté. Et pour appartenir à une communauté, on doit partager les mêmes valeurs, on doit partager les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes projets, etc. Et donc, ça, c'est ce qui a un peu toujours motivé mes choix.
Et la naissance de ta fille aussi a changé beaucoup de choses.
Ah oui, mais alors là, la naissance de ma fille en 2007, Rim, et la naissance de mon fils quelques années plus tard, en 2022, Adam, c'est clair, je pense que ce sont des accélérateurs d'alignement. Mmh. Mes enfants ont été des accélérateurs d'alignement parce qu'ils m'ont reconnecté à la valeur famille. Enfin, la naissance de mes enfants a été un accélérateur de reconnexion à la valeur famille. À chaque fois que je faisais un travail sur moi, la valeur famille était une valeur très importante. Elle était super élevée. D'ailleurs, si tu l'as remarqué, j'ai beaucoup parlé de mes parents. J'ai évoqué mon mari. Je pourrais évoquer mes frères aussi, mes enfants aussi. La valeur famille est pour moi super importante.
Ouais, ouais.
Parce que, si tu veux, quelque part, la valeur famille, la famille, je pense que c'est ce qui est un peu... c'est ce qui s'inscrit sur le long terme. Tu vois, c'est ce qui fait partie de la vie de si je puis le permettre. Mais en tout cas, pour moi, c'est une valeur qui est hyper importante et c'est ce qui me permet d'avancer. Donc, l'arrivée de mes enfants a été, alhamdoulilah, un bonheur et a été un accélérateur d'alignement parce que je me suis posé des questions existentielles à l'arrivée de mes enfants. À l'arrivée de ma fille, Rim m'a reconnecté à mon envie d'être le bon modèle pour ma fille. Et ça, c'est le rapport, je pense, maman-fille, parce qu'il y a quand même une différence entre avoir un enfant fille et un enfant garçon.
Garçon, oui.
Donc, j'avais envie d'être le bon modèle pour ma fille. Et donc, j'ai accéléré le processus de recherche de ce que je suis, de ce que je veux être, de ce que je veux faire. Et donc, j'ai fait des formations qui ont eu beaucoup de sens à l'époque, qui m'ont permis d'atterrir là où je suis aujourd'hui. Et l'arrivée de Adam a été l'accélérateur dans mon cheminement entrepreneurial. Je ressens beaucoup de gratitude pour mes enfants parce que c'est un peu grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Alhamdoulilah. Mais après, tu sais, moi, je ne suis pas une adepte ceci est arrivé et j'ai atteint, c'est l'objectif. Je pense toujours que c'est une multitude de choses et d'événements, et c'est la rencontre de ces événements qui fait que l'on atteint un objectif, que l'on est là où l'on est aujourd'hui. Mais clairement, l'arrivée de mes enfants a été l'un des plus grands accélérateurs de ma carrière, c'est clair.
De ta carrière, justement, et pas seulement de ta vie, parce que c'est ce qui t'a amené à vouloir finalement ouvrir une crèche.
Ah oui, tout à fait. En fait, tu sais, la crèche et la petite enfance a toujours existé, mais sous différentes formes, dans ma tête, dans mes rêves. Et dans, j'aime beaucoup le dire parce qu'on a tendance à penser, en regardant les entrepreneurs, qu'ils ont toujours eu les idées claires sur ce qu'ils voulaient et sur ce qu'ils voulaient réaliser. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a eu un moment aussi où je ne savais pas du tout ce que je voulais. Et c'est pour ça que le travail sur soi est important. Et c'est pour ça que se poser des questions et rencontrer des gens et assister à des conférences, écouter des success stories et écouter des failure stories aussi, c'est important parce que on ne réussit pas. C'est très beau d'entendre les histoires de réussite, mais c'est très beau d'entendre aussi les échecs qui précèdent la réussite parce que ça fait partie du parcours. Et donc, ça a toujours existé. J'ai toujours dit oui, je veux travailler avec les enfants parce que j'aime le monde de la petite enfance. Parce que tout non, mais beaucoup se joue entre, tu sais, 18 mois et 4 ans parce qu'on peut avoir un impact positif sur ces enfants-là, etc. Et donc, ça, c'est un projet qui a, si tu veux, pris plusieurs formes. À un moment, je me suis dit, je vais faire de la formation en discipline positive, formation pour parents, pour accompagner les parents à bien accompagner leurs enfants. Ensuite, je vais faire de la formation de formateur, et donc j'ai commencé à former les enseignants, etc., à la discipline positive pour pouvoir bien accompagner les enfants une fois qu'ils sont dans leur classe. Ensuite, pourquoi pas un projet de crèche, ça pourrait être sympa, mais ça a traîné, tu sais, parce que entre le rêver et le réaliser, il faut beaucoup de temps. Et puis, et puis j'ai posé une forte intention. Et puis, il y a eu Adam, donc mon deuxième enfant, et puis il y a eu une expérience professionnelle, celle qui a précédé l'ouverture de la crèche, qui arrivait à sa fin, parce que je le sentais. Tu sais, on le sent aussi des fois. On sent que ça fait. C'est bon, même si de l'extérieur, c'est tout bon, c'est parfait, mais on sent que non. Il commence à y avoir un dérèglement en termes de valeur, ou là, en termes de... Et donc, on commence à comprendre que c'est la fin. Et donc, j'ai activé les recherches avec le soutien des miens, encore une fois, et est arrivée la crèche où je suis, de là où je te parle aujourd'hui. Alhamdoulilah, en te disant ça, je ressens une profonde gratitude. Alhamdoulilah, parce que c'est vrai qu'il est important de se rappeler le chemin. Parce que, tu sais, c'est marrant, mais l'être humain a tendance à take for granted what you have. Et donc, ne pas oublier le processus.
Alors donc, c'est compliqué, oui, justement, oui, de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir ce qu'on veut.
Je pense que ça peut être compliqué.
Tu l'as vécu comment, toi ?
J'ai toujours... en fait, je suis une... j'aime être dans l'action. C'est-à-dire, oui, ne pas savoir où je vais, c'est pas grave, mais tant que je ne reste pas dans je ne sais pas et que je suis dans l'action, que j'essaye, que je fais des recherches, que je commence à donner un peu de direction à là où j'ai envie d'aller, ça devient plus facile à gérer. Tu vois, tant que je suis dans l'action, tant que je me fixe de petits objectifs, vraiment, c'est vraiment le secret pour moi, personnellement, est dans l'action. Ce qui est très difficile pour moi, c'est d'être terrorisée ou là d'être dans une situation où je n'arrive plus à bouger, ou là que je ne fais rien, ou là que je ne sais pas quoi faire. Là, c'est catastrophique. Là, je ne me sens pas bien. Et généralement, les fois où ça s'est produit, je me suis inscrite en formation piège.
D'accord.
Tu vois, je me disais, OK, je vais chercher une formation. Dès que je sens que ça commence à stagner, ou que je vais commencer à m'ennuyer, ou que je vais commencer à perdre le nord, je m'inscris et je fais une formation. Et généralement, ça me permet de... Et d'ailleurs, tu sais, quand est-ce que j'ai su que j'ai voulu travailler dans la discipline positive et que j'ai su que j'ai voulu ouvrir une crèche? C'est quand j'ai fait ma formation en discipline positive auprès de l'Association américaine de discipline positive et que j'ai eu la chair de poule en assistant à la formation. C'est simple. C'est simple comme bonjour. J'ai vraiment, littéralement, eu la chair de poule, et je me souviens avoir envoyé un audio WhatsApp à une amie. Je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai pas envie d'oublier ce sentiment, parce que je pense que c'est ce qui me connecte à mon essence. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est l'impact que j'ai envie d'avoir. C'est ça que j'ai envie de faire. Je le sens. Deep inside, j'ai senti que c'était ça. Et donc, j'ai envoyé cet audio et j'ai su que c'était ça. Et donc, ça commençait à prendre forme. Tu vois ?
Petit à petit, en fait, ça te menait vers ça. Des fois, en fait, on a l'impression que la vie nous mène vers quelque chose. On ne sait pas quoi, mais elle nous mène vers quelque chose. On cumule des expériences, on cumule des formations pour aller quelque part. Oui. Les autres pourraient voir ça de loin comme étant une planification, mais c'est pas forcément... Je pense que tu es dans ce cas de figure, tu n'as pas vraiment planifié là où tu es aujourd'hui.
Non, en fait, je trust the process.
Exact.
Et je suis dans l'action. Je refuse catégoriquement. Là où il y a de la planification, c'est le refus catégorique d'être quelque part où je ne suis pas bien, où je sens qu'en termes de valeur, je ne suis pas en alignement. Et j'y vais. Et j'y vais, quoi. Et j'avance. Et j'avance, un petit pas en avant, deux pas en arrière s'il le faut, mais à l'iche. Et j'avance petit à petit.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.